D'abord, il ne faut pas confondre deux choses. L'État islamique est fortement affaibli au point de vue territorial en Irak, beaucoup moins en Syrie, où il arrive même à parfois à contre-attaquer et à reprendre des positions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'État islamique garde toute sa capacité d'action à l'étranger. Et à l'étranger, il agit selon plusieurs modèles. Un des modèles, c'est celui qu'on a vu à Paris le 13 novembre, à Bruxelles le 22 mars, et sans doute à Istanbul il y a quelques jours. Ce sont des attaques qui sont préparées, qui sont ordonnées, qui sont voulues par l'État islamique sur des objectifs stratégiques ou des opérations stratégiques, parce qu'elles sont importantes pour lui. Et puis il y a toute une série d'attaques, comme celle d'Orlando, probablement, mais ça n'est pas encore certain, comme celle de Dhaka, qui sont des attaques qui sont commises sur place par des gens qui se réclament de l'État islamique, qui sont adoptés, si on peut dire, pour l'État islamique, mais qui n'ont pas été formés en Syrie ou en Irak et qui ne sont pas envoyés pour commettre des attentats. Et puis, il y a encore un troisième type d'attaque qui est encore beaucoup plus difficile à contrer, qui sont des attaques de moindre ampleur, comme par exemple le sauvage assassinat de deux policiers à Magnanville, près de Paris, il y a deux semaines, qui, elles, sont conduites par des individus isolés, qui se réclament de l'État islamique, mais qui agissent vraiment sur des cibles qu'ils ont choisies eux-mêmes et à un moment qu'ils choisissent eux-mêmes.
Et est-ce qu'on a une idée du nombre de gens qui appartiennent directement ou qui se réclament directement de l'État islamique ?
Alors on a une idée relativement précise et d'ailleurs assez inquiétante des chiffres de l'État islamique stricto sensu. C'est entre 40 000 et 60 000 combattants. En tout cas, c'était ça il y a quelques mois, dont 30 000 volontaires étrangers, c'est-à-dire plus que l'ensemble des volontaires de tous les djihad depuis 1945. Ça, on parle des gens qui sont sur place, sur le terrain, en Syrie, en Irak. Et parmi eux, par exemple, entre 6 et 10 000 Européens. Maintenant, si on s'intéresse aux sympathisants de l'État islamique dans le monde, tout compris, le chiffre est très difficile à établir, mais on parle certainement au niveau mondial de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc ça constitue un vaste réservoir dans lequel l'État islamique peut encore pêcher pour recruter des djihadistes ou des kamikazes.
Et comment expliquer qu'un groupe comme l'État islamique ne perde pas de son pouvoir d'attraction quand il s'en prend, par exemple, à des musulmans qui font les courses pour fêter l'Aïd à Bagdad ?
Oui, mais alors, les victimes de Bagdad, et Bagdad, c'est le pire attentat commis en Irak depuis très longtemps, c'est le pire attentat commis dans le monde entier depuis le mois de janvier.
Avec plus de 200 morts, oui.
Même peut-être avant, puisqu'on est à plus de 220 morts, alors nous parlons. Mais ces morts sont des chiites. Pour les gens de l'État islamique qui sont des salafistes sunnites, les chiites sont pires que des chiens. J'utilise leur vocabulaire, hein, c'est pas le mien. Ce sont des gens qui ne méritent pas de vivre, qui sont des hérétiques, des déviants. Donc ce ne sont pas des vrais musulmans pour l'État islamique.
Mais dans la rhétorique du groupe État islamique, il y avait aussi cette logique de représailles tournée vers les Occidentaux qui faisaient des victimes civiles dans des pays musulmans. Est-ce que c'est encore un argument qui est avancé par ce groupe pour légitimer ses actions ?
Tout à fait, c'est un argument qui est avancé. C'est évidemment un argument qui avait été avancé à Bruxelles le 22 mars et à Paris le 13 novembre. Donc ça, c'est un type d'attentat, les représailles, entre guillemets, contre l'Occident. Les gens de l'État islamique disent « vous nous tuez, vous bombardez nos écoles, vous nous tuez chez nous, nous viendrons vous tuer chez vous, vous ne serez même pas à l'abri au creux de votre lit ». Et puis il y a une deuxième série d'attaques, par exemple ce qu'on vient de voir à Bagdad, là on est clairement sur des actes de guerre. L'État islamique est en position difficile en Irak, mais il montre que même s'il perd du terrain et même si à un moment donné il doit évacuer, ce qui est assez probable à court terme, la ville de Mossoul, qui est la dernière place forte qu'il tient en Irak, il reste capable de commettre des attentats.
Justement, les armées conventionnelles des pays, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe, sont-elles préparées dorénavant à affronter ce type d'ennemis dans un conflit asymétrique à force d'avoir ce type d'ennemis-là, ou est-ce que ça reste toujours quelque chose d'extrêmement difficile à cerner, à cibler ?
Alors, je pense qu'on est beaucoup plus préparé qu'on ne l'était il y a 15 ans, qu'on ne l'était au moment de l'Afghanistan en 2001, après les attentats du 11 septembre ou en Irak en 2003. Il reste que c'est extrêmement compliqué parce que quand vous avez affaire à une organisation asymétrique, tant que l'État islamique contrôle du territoire, on est dans un contexte assez classique, même si l'État islamique utilise des méthodes atypiques comme les attentats contre les civils. Mais on peut réduire le territoire en l'attaquant. Quand vous affrontez une organisation clandestine, comme l'État islamique va redevenir probablement en Irak dans les jours, les semaines à venir, vous n'avez pas d'autre choix que de démasquer les réseaux, les traquer et éliminer physiquement les personnes avant qu'elles puissent passer à l'acte.
Les mouvements terroristes qui commettent des attentats, c'est pas nouveau. Ça s'est vu beaucoup, ne serait-ce que de ces 50, 70 dernières années, même en comptant la Seconde Guerre mondiale et les mouvements de résistance clandestins. Est-ce que le recours à des attentats suicides, ça complique encore les choses pour riposter à ce type d'attaque?
Alors vous avez raison de souligner qu'on a connu le terrorisme depuis très longtemps. On a eu effectivement des mouvements de libération comme le Fatah palestinien à une époque qui a pratiqué le terrorisme. On a eu des organisations d'extrême gauche en Europe ou d'extrême droite
Bien
d'ailleurs, mais
sûr.
moins. Mais c'était dans la plupart des cas, si on met à part l'extrême droite, c'était dans la plupart des cas du terrorisme ciblé. Donc on pouvait, en protégeant les cibles, c'est-à-dire les avions, les aéroports, les autorités, les bâtiments publics, on pouvait déjà réduire les possibilités d'action des terroristes. Deuxièmement, c'était des mouvances relativement réduites. Aujourd'hui, le problème, c'est que la cible, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, on le voit, ça peut être une mosquée, ça peut être un restaurant comme à Dakar, ça peut être une gare, un métro ou un aéroport comme à Bruxelles, des terrasses ou une salle de spectacle comme à Paris, un aéroport comme à Istanbul, ça peut être n'importe quoi et on ne peut pas tout protéger. Deuxièmement, on est en face d'une masse très impressionnante, très importante de combattants. Et troisièmement, effectivement, on est en face de gens qui sont prêts à commettre des attentats suicides, c'est-à-dire que rien ne peut arrêter. Donc effectivement, le fait d'avoir affaire à des suicidaires, à des kamikazes, des martyrs, comme ils se prénomment eux-mêmes, ça complique fortement les choses.
Mais quelle réponse leur apporter? Parce qu'on ne peut pas éliminer tous les gens suspectés éventuellement un jour de passer à l'acte au nom de l'État islamique.
Non, bien entendu, on ne peut pas éliminer tout le monde. Les gens qui sont, en tout cas si on prend le cas de l'Europe ou d'autres pays où la justice peut s'exercer, les gens qui sont à portée de la main de la justice, qui sont sympathisants de l'État islamique, je pense qu'il devient très très clair qu'il leur faut à tous un traitement judiciaire. L'État islamique est une organisation terroriste, meurtrière. Ceux qui sympathisent avec cette organisation ou qui rallient cette organisation prennent leurs responsabilités. Maintenant, pour ceux qui sont hors d'atteinte de la main de la justice, qui ne peuvent pas être arrêtés et déférés devant les tribunaux, je pense que la seule solution, c'est réellement, et c'est ce qu'on fait en Syrie et en Irak, c'est les éliminer, les repérer, les éliminer. Quelqu'un qui se trouve aujourd'hui dans un camp d'entraînement, dans une villa où on entraîne des kamikazes ou des terroristes en Syrie ou en Irak, a fait un choix. Il présente un danger létal, terrible pour la société, dans n'importe quel pays. Il est donc, je pense, légitime que les États se défendent par une espèce de légitime défense proactive.
Et vous ne croyez pas une réponse politique et sociale aussi pour justement que ce ne soit pas une alternative attrayante pour des jeunes gens souvent?
Bien sûr, il y a un autre problème. L'État islamique, c'est un symptôme de la maladie, c'est pas la maladie. La maladie, c'est le salafisme, c'est l'extrémisme musulman sunnite. Qui se nourrit de beaucoup de choses. Il se nourrit d'abord, et ça c'est à peu près impossible à réduire, d'idéologie. C'est une tendance politique forte, même s'il est très minoritaire, de l'islam sunnite contemporain. Et ça c'est très difficile à combattre. Maintenant, il y a deux autres problèmes. L'islam doit se moderniser d'une part et modifier sa manière de vivre et de s'inclure dans la société mondialisée. Et puis, bien entendu, il y a le problème de la justice sociale, de la justice politique, de la démocratie dans les pays d'où viennent les terroristes, si on parle des pays du Moyen-Orient, par exemple. Mais on comprend bien, moi j'appelle de mes voeux ce genre de choses, d'évolution politique, mais ça ne va pas se faire en une journée, ça ne va pas se faire en 6 mois, ni en 1 an, ni sans doute en 5 ou 10 ans, c'est très très long. Et en attendant, nous avons une menace qui est immédiate. Et à cette menace immédiate, la seule réponse, elle est sécuritaire. Pour le reste, effectivement, pour faire en sorte que dans l'avenir, mais l'avenir, personne ne sait exactement quand il se place, que dans l'avenir, il y ait moins de gens attirés par cette idée djihadiste et par le salafisme, il y a effectivement un travail de fond social, politique, idéologique, religieux à faire, mais qui prendra énormément de temps.